Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce lundi 21 août 1911, il y a un peu plus de 7h du matin, quand Vincenzo Perugia s'introduit discrètement au Louvre. L'ouvrier italien se faufile à pas de loup dans les longs couloirs du musée parisien pour monter au premier étage direction le Salon Carré. Le Louvre, il en connaît tous les recoins, si bien qu'il pourrait presque avancer les yeux fermés. Eh oui, ces derniers mois, Perugia a participé à la grande entreprise de protection de quelques-unes des peintures les plus précieuses du musée, en procédant à leur mise sous verre. Alors, il sait bien qu'aujourd'hui, lundi, c'est le jour de fermeture. Les galeries sont désertes et il n'y a que 12 gardiens pour surveiller les milliers de chefs-d'œuvre exposés ici. Personne en vue dans le salon carré, aucun bruit dans les salles avoisinantes, la voie est libre. Vincenzo peut accomplir son grand projet. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'affaire est pliée. Il ressort tranquillement par la porte Visconti, mais avec un paquet précieux sous le bras. 77 cm par 53, l'un des tableaux les plus célèbres du monde. Un tableau dont le premier propriétaire ne fut autre que le roi François Ier, peint par un artiste nommé Léonard de Vinci au début des années 1500 et un mystérieux sourire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Oui, je parle bien de la Joconde. Alors oui, avec une facilité des plus déconcertantes, Vincenzo Perugia vient de commettre le cambriolage du siècle. Et presque le plus simple aussi, il n'a eu qu'à décrocher la Mona Lisa, la cacher sous sa blouse blanche, et ben c'est tout. 10 minutes plus tard, il déambulait tranquillement dans les rues de Paris. Mona Lisa, accrochée au Louvre en 1797, disparue. On imagine que c'est le branle-bas de combat au musée du Louvre, qu'à la seconde où on découvre le vol, tous les policiers de France et de Navarre sont mobilisés pour la sauver. Eh bien, que nenni. Il faudra plus de 24 heures pour que quelqu'un s'inquiète enfin de sa disparition. Oh, un gardien ou deux avait bien remarqué cet espace vide sur le mur drapé de rouge, mais il suppose que le tableau est dans l'atelier du photographe. Alors, une fois arpenté tout le musée, on se résout à appeler le directeur qui, le pauvre, doit écourter ses vacances. C'est là que l'enquête commence. La police n'écarte aucune piste et passe le musée au peigne fin. Dans un escalier, on retrouve la vitre qui protégeait le tableau. Et Eureka, l'empreinte d'un pouce gauche y figure. Ce pouce, c'est évidemment celui de Vincenzo Perugia. Notre homme est déjà fiché. Le dénouement devrait donc être simple. Eh bien, pas du tout. Personne ne fait le rapprochement. Les mois passent et la presse se délecte de cette incroyable enquête qui n'en finit plus de s'enliser. Chaque jour, les hypothèses les plus folles font les gros titres. Si c'était un coup des Américains ou des Allemands, et si c'était Guillaume Apollinaire, je parle bien du poète, accusé d'avoir commandité le vol, il passe 8 jours à croupir au fond d'une cellule de la prison de la Santé. Pourtant, la clé du mystère était simple. Mona Lisa n'a jamais quitté Paris. Elle trône sur la petite table de Perugia dans la chambre qui loue près du canal Saint-Martin. Et chaque repas est pour Vincenzo l'occasion de lorgner sa belle compagne. Il n'a qu'à soulever le tissu qui la recouvre pour répondre à son inimitable sourire. Mais attention, dès qu'un visiteur passe, la Joconde est cachée illico presto dans le placard. Vincenzo Perugia a bien conscience qu'il possède un trésor. Il décide donc de confectionner un coffre en bois à double fond. Ainsi, il pourra transporter sa belle sans craindre qu'elle ne soit découverte. Comprenez que Mona Lisa sera dissimulée au milieu des chaussettes trouées et des vieilles chemises de notre voleur. D'ailleurs, après 2 ans de colocation tout de même, il songe qu'il est grand temps de rendre à César ce qui lui appartient. Mais ne vous y trompez pas. Vincenzo Perugia ne se présente pas au Louvre tout sourire, la Joconde sous le bras. Non. En fait, l'Italien n'en finit plus de subir la xénophobie ambiante. Les ouvriers français s'en prennent à leurs comparses étrangers, accusés de voler leur travail. Et tout cela entraîne un fort regain de chauvinisme chez l'Italien et des rêves d'avenir meilleur aussi. Son plan est simple. Il va rendre à l'État italien le tableau de Leonardo da Vinci, restituer ce chef-d'œuvre à son pays d'origine après 4 siècles d'exil en France. Le voilà qui plie bagage et Mona Lisa bien cachée s'engouffre dans un train, direction Firenze, Florence. Vincenzo en est certain, grâce à la vente du tableau, il touchera le jackpot. Adieu, le salaire de misère et bonjour la gloire. Mais malheureusement pour ce pauvre Perugia, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il les avait imaginées. Il avait pourtant prévu son coup. Avant de partir, il a échangé des lettres avec un antiquaire florentin, jurant à ce dernier qu'il détenait Mona Lisa. Vincenzo signe alors Leonardo. Alors, quand il se présente chez le fameux antiquaire, l'ouvrier se dévoile. « Sono Leonardo. Je suis Léonard, pour les noms italophones. »
Merci, merci beaucoup.
Et, main sur le cœur, promet que la Joconde se trouve dans la chambre de l'hôtel où il loge. L'antiquaire le prend pour un déséquilibré, mais tout de même, sa curiosité est piquée. Alors rendez-vous est donné à l'hôtel Tripolitaine. Et le 11 décembre 1913, quand Alfred Ogeri passe la porte de la petite chambre, il n'en croit pas ses yeux. Là, devant lui, c'est elle. Mona Lisa lui sourit. L'antiquaire s'empresse d'appeler discrètement la police. Et pour Vincenzo Perugia, c'en est fini des rêves de gloire. Il est menotté et directement mis derrière les barreaux où il passe plusieurs mois. Mona Lisa, quant à elle, est vite mise à l'abri et ne tarde pas à retrouver une place de choix au musée du Louvre. La suite, vous la connaissez. Désormais, bon courage pour apercevoir son rictus célèbre. Mais qu'importe, on a retrouvé la Joconde.
Europe 1. Historiquement